Pour les étudiants de première année de licence, l'université se découvre à travers le prisme de la crise sanitaire. Comment faire face au distanciel? Comment s'adapter, réinventer d'autres façons de faire cours? D'autres façons de tisser des liens entre étudiants et étudiantes, et avec les enseignants? Nous sommes allés à la rencontre d'un cours pratique d'écriture théâtrale intitulé « L'art en vie, l'art en vrai ». Agnès Marietta, qui l'anime, a proposé à ses étudiants de travailler les textes qu'ils écrivent dans le cadre de son cours, et d'en faire des enregistrements afin de produire des contenus radiophoniques. Une façon de contourner l'impossibilité de se produire en public et d'inventer autre chose, de travailler autrement.
C'est un cours d'écriture, on dit, mais ça fait, pour moi, c'est un atelier d'écriture. Moi, je ne me considère pas comme prof, je me considère comme autrice, comme artiste. Et moi, mon but dans un atelier d'écriture, c'est de déclencher l'écriture. Donc, de donner aux étudiants, aux étudiantes, envie d'exprimer leur parole, leur singularité. Et la thématique de cet atelier, c'était l'art en vie, entre parenthèses, S, l'art en vrai, parce que je pensais qu'on allait le faire en présentiel. En fait, on l'a fait en Zoom, mais c'est pas grave, on est quand même en vie. Donc, l'idée, c'était de partir de l'autofiction. L'autofiction et l'observation, donc deux thématiques, deux méthodes, on va dire. D'abord, on part de soi. Donc, je donnais des petites consignes sur l'histoire de mes cheveux, la première page de l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Comment trouver le ton juste en parlant de soi, la bonne distance. Parce que moi, je suis très impressionnée par justement Riyad Satouf ou Marjane Satrapi, Persepolis, ou D'autres vies que la mienne de Emmanuel Carrère. Voilà, Gaël Faye. Enfin, il y a toute cette, depuis une dizaine d'années, ou même les podcasts sur transferslate.fr. Il y a toute, comment dire, une veine de narration de soi qui est très adressée à l'autre, en fait. Très adressée à l'autre. Et ce n'est pas forcément douloureux aussi. C'est, même les expériences douloureuses, elles sont réenchantées. Et du coup, on peut se les approprier. Et ça, je trouve ça assez... Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, j'ai vraiment eu envie de travailler là-dessus. Et aussi... qui partent d'entretiens, qui soient, puisque justement on est dans une situation de confinement, eh bien qui trouvent quelqu'un à interroger, à interviewer, par mail, mais en fait en visio ou au téléphone, sur une thématique qui leur plaisait, et de ce texte, écrire et travailler finalement comme un artiste. Un artiste, il va aller interviewer quelqu'un, et de là, il va être complètement libre de réinterpréter la parole de l'autre comme il a envie. Et il va créer un texte à partir de ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux méthodes, on va dire. L'idée du Zoom, puisqu'on était en Zoom, c'était qu'à chaque fois, il fallait créer un événement, une lecture, il fallait qu'il y ait une espèce de petit trac, comme on le ressent finalement en atelier, quand on lit son texte devant tout le monde. C'était important. Je pense qu'on a réussi à créer un groupe créatif. Voilà. Parce que moi, j'ai fait des montages, je me suis éclatée avec leurs textes. Je leur ai dit, je vais faire des montages, je vais m'éclater avec vos textes. Et voilà, on est un groupe de créatifs.
Allez, acte 1, fées et dragons, et félicitations.
Je m'appelle Erwan. À 4 ans, j'ai rencontré un dragon. Allongé dans sa grotte, il veillait sur ses trésors. Et malheur à celui ou celle qui approchait à moins de 3 pas. On va me chercher pour le terrasser. Moi, Erwan, 4 ans.
Je m'appelle Isabelle. À 7 ans, je m'appelais Ondine, comme mon personnage préféré du film La Fée Clochette.
Je m'appelle Salomé. J'ai 4 ans et je découvre que je suis un elfe. Mes oreilles sont pointues, pas de doute, je suis un elfe.
Imagination débordante, certes, oreilles particulières, mais aucun sens du réel et du fictif. Entêtement abondant.
Je m'approchais.
Moi, j'étais certaine que les fées existaient. Et je voulais que tout le monde le croie pour que tout le monde m'aide à...
Voilà, par exemple, là, vous pourriez faire un pas et moi, et je m'approchais, moi, et clac, et quelqu'un va vous passer dessus. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez tous en concurrence dans la parole. C'est vrai que ça s'accélère, en fait. Quand vous prenez la parole, c'est que vous voulez couper Erwan.
Juste avant,
c'est ça l'idée. Je m'approchais, lui, il est à fond dans son truc. Je m'approchais, moi, et alors, moi, voilà.
Quand c'est Erwan qui passe, il faut le couper, tu vois.
Voilà.
J'ai moi.
On pourrait commencer toutes les phrases par moi, d'ailleurs. Parce que c'est que des jeux à
faire. Sauf vous, d'ailleurs.
Moi, je.
Oui, là, c'est ça, en fait, l'idée. C'est que vous avez 8 ans, en fait.
Moi, je m'approchais.
Isabelle, vous avez 8 ans, en fait. Je m'appelle Isabelle. À 7 ans, je m'appelais Ondine, comme mon personnage préféré, vous voyez. Voilà, je voudrais que ça aille à la mitraille, quoi.
On recommence?
Ouais, allez, on recommence. Pour le plaisir.
Les montages, c'était mon petit plaisir à moi, en fait. C'est, en fait, je leur demandais d'envoyer les textes qu'ils avaient écrits en atelier. Et au bout de la deuxième ou troisième séance, je me suis dit, ah, ça serait marrant de faire un montage. Et comme ça, justement, pour créer un peu une petite cerise sur le pompon, on va dire, en début de séance, pour nous mettre en jambes, comme on va faire là, d'ailleurs, en présentiel. Je me suis amusée avec leurs textes, à les couper, à les mettre en perspective, à les assassiner, à les couper en 8, à les couper en 16, et à les détourner même parfois, pour leur montrer aussi ce que c'est que l'écriture théâtrale, parce que c'est quand même un atelier d'écriture théâtrale. Ça peut être une écriture collective. C'est-à-dire que pour moi, c'est... Et puis à ne pas être trop attaché à son écriture. C'est-à-dire que leurs textes, de toute façon, ils leur appartiennent complètement. Mais en fait, ça, c'est aussi de la matière. Un texte, c'est aussi de la matière qui peut être complètement... qui peut avoir une autre résonance dans un autre contexte. Si on met deux phrases côte à côte, ça peut créer du dialogue. Voilà, donc c'était vraiment une manière de rentrer en dialogue aussi avec eux, en fait, avec avec le groupe. Et c'était aussi une manière de faire de la création collective.
C'est, je pense, mon cours préféré du semestre. Ce qui était compliqué, c'est qu'on est en distanciel. Donc, c'est dur de se motiver quand on est chez soi, on ne sort pas beaucoup, etc. C'est très facile de lâcher. Mais la professeure, Agnès Marietta, a un enthousiasme tel qu'elle nous motive et elle nous pousse tous à se donner. Même si on est très timide au début, on ne parlait pas trop, on n'osait pas. Mais elle nous a poussé, et par la suite, même nous, ça nous faisait du bien, en fait, d'écrire, de poser des choses, que ce soit intime ou pas. Et non, c'était phénoménal, ce cours. Et on a écrit un texte sur les cheveux. Il fallait dire notre ressenti sur nos cheveux à nous, etc. Donc j'ai bien aimé en parler, parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de cheveux d'arabe, particulièrement. Et du coup... Voilà, on rentre dans de l'histoire, dans de la sociologie, c'est un truc très large. Je parle aussi de la calvitie. C'est un thème qui est peu évoqué, mais hyper important pour les hommes et même pour les femmes. Donc, c'est ce texte que j'ai beaucoup aimé le faire. Après,
on peut partir dans quelque chose qui peut paraître anodin. Et puis
c'est ça, et au final, on peut creuser et aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense.
Mes cheveux et moi, c'est une tragédie grecque. Je sais que ça se terminera mal. Déjà, je ne les appelle pas cheveux, mais sha'ar. Les sha'ar, c'est le nom des cheveux en arabe. Un nom extrêmement violent. Mais même ce nom ne leur va pas. Pas assez bouclé pour avoir des cheveux méditerranéens. Pas assez lisse pour avoir des cheveux européens. J'ai malheureusement encore une fois le cul entre deux chaises. Mes cheveux ont pris perpétuité. Ils n'ont pu sortir de prison qu'après 16 ans de bons et loyaux services. Ma coupe n'a jamais été libre pendant ces années. Toujours imposée. Enfermé dans la prison gérée par le directeur nommé Papa. J'ai survécu avec la même coupe pendant 16 ans, et j'en suis fier. Ou pas. Le plus dur dans cette prison, c'était le moment de se coiffer. Les char, ça ne se coiffe pas, ça se brosse. Mais en prison, on n'utilise pas de belles brosses en bois. On se sert d'un outil de torture, la brosse Tazi. Cette brosse en plastique ronde, venu tout droit du Maroc, armé de 1000 lames, a traumatisé et traumatise encore aujourd'hui des générations de cheveux nord-africains. Aujourd'hui, mes cheveux sont libres. Ils se sont réinsérés dans la population et vivent leur vie. Néanmoins, un autre ennemi arrive pour détruire le peu de liberté qu'ils ont. Cet ennemi se nomme la calvitie. Il se balade et foignit des milliers de crânes dans le monde. Je combats de tout mon être cette force du mal. Mais je crois que je vais perdre. Je vous l'ai dit, ma vie est une tragédie grecque. Ça se terminera obligatoirement très mal.
C'est le jour. Il se réveille dans un mugissement qui fait frémir les arbres autour de lui. Petit à petit, il se dresse sur ses pattes, sort ses griffes et les plante dans la terre pour s'étirer. Une fois que la terre autour de lui a été recouverte de cicatrices, il sent comme un gigantesque feu se manifester à l'intérieur de lui. Il sait que c'est la flamme du désir qui l'alimente. Il vacille, ses poils se hérissent, la chaleur se répand dans tout son corps. Il faut qu'il parte maintenant pour l'apaiser. Alors il s'élance et le voilà parti. Il foule le sol comme s'il lui appartenait. Dans sa course, il observe. Il regarde tout autour de lui. Ses yeux balayent le moindre détail. Ses oreilles, elles, sont à l'affût du moindre bruit. Ses narines, dilatées, hument la rosée familière. Tout son corps est en alerte. Il faut qu'il trouve, maintenant, ce dont il a besoin. Tout à coup, il s'arrête. Une odeur lui a chatouillé les narines. Il connaît cette odeur, et cette odeur le connaît. Il se remet en route, mais cette fois plus lentement. Il pèse le poids de chacun de ses pas, pour ne faire aucun bruit. Ses pupilles, maintenant dilatées elles aussi, scrutent chaque recoin. Il sait que bientôt il sera satisfait. Mais le feu se fait maintenant plus grand. La chaleur est tellement intense que son corps tout entier émet une buée trouble. Son cœur bat une pulsation de plus en plus forte. Son sang bouillonne, sa gorge le brûle. Soudain, alors que tout l'abandonne, il voit. Il voit comme s'il n'avait voulu voir que cela. Il ouvre alors sa gueule, rétracte ses babines, découvre ses crocs et s'élance.
Acte 3, éruption volcanique. Métro 13, direction Châtillon. 30 minutes d'agonie. La canicule s'invite pendant le trajet. Assise au fond du wagon, les jambes croisées. Masque de spectacle en fusion avec leur peau. Mutation génétique. Cocktail de sentiments sans alcool. Il et elle baignent dans la gadoue, comme les fruits d'une sangria espagnole.
Salut Lens. Avant que je t'indique le chemin, n'oublie pas de prendre du pain, des tickets de métro, des pastels de couleur, une canne à pêche et une couverture de survie. À la sortie de chez toi, va à gauche et monte les escaliers. Quand tu aperçois le château d'eau, prends la rue la plus touristique. Mais fais attention, parmi ces étrangers impressionnés par la culture française, il y a des démarcheurs qui voudront t'arrêter pour te vendre diverses choses. Si tu te retrouves embobiné par l'un d'eux, montre-lui la couverture de survie. Il sera aveuglé par la chaleur de cet objet et te laissera passer. Après avoir fini la rue, prends la canne à pêche pour attraper l'oiseau qui garde les clés de chez moi. Ne t'inquiète pas, il ne mord pas. Une fois les clés en poche, cours vers le souvenir des poulbeaux. Descends la butte avec le funiculaire. Pour l'utiliser, tu dois juste faire poinçonner tes tickets de métro par Serge Gainsbourg. Arrivé en bas, dirige-toi vers les passants les plus malheureux et donne-leur les pastels de couleur. Ils t'enlaceront de bonheur et t'emporteront vers le studio 28. Profites-en pour me dire ce qu'il y a en cinéma en ce moment. Monte la rue jusqu'au moulin, descends à gauche et toque à ma porte. On mangera le pain ensemble avec de la confiture. À demain, en espérant que cette fois-ci tu ne te perdras pas.
Ok. Donc je vais vous lire un parcours à vélo. Vous allez comprendre pourquoi. Ah, comment j'en suis arrivé là? Un entrepôt délabré avec un taré à mes trousses sans aucun moyen d'en sortir. Ouais, je sais. pas conventionnel comme choix de carrière. C'est drôle quand on y pense. L'art, c'est la seule carrière où tu connais à peu près ta destination, mais on te donne aucun itinéraire pour y arriver. Alors comment faire ? Renoncer ? S'engager dans une formation et repartir avec un travail à la clé ? Très peu pour moi. Il suffit de voir ta vie comme un vélo. Au début, tes parents et ta famille vont t'aider à avancer le plus loin possible. Ils seront là pour te relever et te faire repartir droit devant. Mais un jour, tu prends ta propre voie et il faut enlever tes petits trous. Alors tu tombes, tu te fais mal. Tu veux abandonner, puis tu apprends que pour rester droit, il faut avancer. Il faut pédaler pour donner de l'énergie à tes actions et ne surtout pas s'arrêter, sinon le vélo tombe encore. Et après, t'apprends que tu peux poser le pied. T'arrêter un moment pour respirer, te retourner, voir la distance que t'as parcourue. Et même si cette dernière ne te paraît pas assez grande, rien ne t'empêche de remonter et repartir. Mais au moins, tu pourras repartir satisfait en te disant « Je suis un peu plus près de mon rêve qu'hier. » Mais comme partout, un jour, ton vélo peut dérailler, se crever un pneu ou toute autre galère. Ça fait partie de la vie et de ses expériences. Alors, tu apprends à réparer une roue, à repartir. Tu apprends à éviter certaines routes et ainsi, tu te rapproches à nouveau de ton rêve. Au fond, ce que je cherchais à comprendre toute ma vie et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que rien n'est écrit à l'avance. Je parlais d'itinéraire plutôt, mais encore une fois, si tu voulais aller à Bordeaux, rien ne t'oblige à prendre l'autoroute. Le chemin sera peut-être plus long et encore, peut-être que t'éviteras certains bouchons. Et au final, t'arriveras à ta destination si tu t'en donnes les moyens et surtout si tu t'en donnes le temps. Tout ce qu'il faut, c'est y croire assez fort et ne pas avoir peur de tomber sans tes protections. Pour finir, j'aimerais juste dire, où serait le plaisir d'avoir des rêves si la vie ne tentait pas de vous mettre des bâtons dans les roues ? Après tout, je ne sais pas pour vous, mais je préfère atteindre mon rêve en ayant travaillé pour ce dernier que tout simplement en étant le fils d'un tel ou d'un tel et n'avoir aucun mérite comme on l'a vu maintes fois. Dans mon cas, je veux devenir acteur ou comédien, les deux me vont. Faire du doublage, écrire des films. Alors, certes, pour l'instant, mes textes ne valent pas un clou. Et j'ai que deux voix dans ma besace. Mais j'y travaille et je continue de m'entraîner autant que je peux. Croyez toujours en vos rêves, car vous avez tout ce qu'il faut pour y réaliser. Mais avant toute chose, croyez en vous.
J'ai jamais entendu une voix comme ça, c'est vraiment incroyable, je trouve. Et en fait, je t'avoue que je l'avais déjà entendue en Zoom, tu vois. Et tu mets pas ta caméra, donc on n'avait jamais vu ton visage. Enfin, en tout cas, moi, je crois que j'avais jamais vu ton visage. Mais j'avais déjà ta voix, à chaque fois que tu lisais tes textes, je me disais putain, mais vraiment, vu qu'on voit, on voit pas ta tête, j'imaginais des visages et je trouvais, enfin vraiment, je trouve que t'as une voix qui fait voyager, donc déjà c'est magnifique. Et puis j'ai trouvé ton texte très beau et j'ai trouvé ça très émouvant, voilà, je trouve ça top. En fait, ton rôle, je m'en fous. Tu crois que je vais pas réussir à dormir à cause de cette audition ? Non. Si je suis là, c'est juste parce que j'ai besoin de monter sur scène. Tu crois vraiment que c'est pour tes textes incroyables et tes talents de metteur en scène que je suis là ? Si je suis là, c'est juste parce qu'il me reste encore assez de fougue, de passion et peut-être un peu d'envie suicidaire de me faire déchirer 3 fois par semaine dans des auditions de merde pour des textes encore plus médiocres que le spectacle live de Dora. Il me reste l'idiotie et la passion de vouloir revoir les planches, d'être sous les projecteurs, de sentir cette boule de plaisir se déverser en moi quand je joue. Cette espèce de pulsion qui explose au milieu de ton ventre pour irradier chaque partie de ton être. Tu connais pas ça, hein ? C'est toi qui es frustré de plus avoir le même plaisir de monter sur scène. Tu veux voir ma rage de jouer ? Putain, tu veux voir une actrice et non pas une patte que tu pourras modeler à ta convenance ? Mais alors donne-moi un rôle de femme ! Donne-moi un rôle de pute! Donne-moi un rôle de bonne! Donne-moi un rôle de craquée, de folle! Donne-moi un rôle de pouvoir! Donne-moi un rôle où je suis pas juste un chien qui agite sa croupe sur scène! Un rôle où je peux exploser, un rôle avec un peu plus de vie qu'un platane! Donne-moi juste une scène et un public! J'ai pas besoin de maquillage, j'ai pas besoin de seins, j'ai pas besoin de fesses, j'ai pas besoin d'être jeune ou d'être vieille! J'ai pas besoin de troquer mes rides et ma voix cassée.
J'ai pas besoin de toi pour atteindre la Seine. Connard, tu sais aussi pourquoi t'es un gros connard? Parce que c'est grâce à papa et maman que t'es là. Ouais, putain, je joue ma vie en face d'un type qui a jamais eu à se démerder pour ressentir le moindre frisson et avoir la chance de monter sur scène. C'est quoi, c'est un mot mal placé et je me condamne à bosser comme caissière au Lidl?
Écoute, c'est comme ça le métier. Soit t'es beau et t'as gros, soit t'es mauvais.
Mais tu sais aussi pourquoi t'es un gros connard? Parce que t'es censé incarner une liberté. T'es censé incarner un idéal. Et au lieu de ça, tu nous chies tous à la gueule et tu recrées un système compétitif dans lequel l'acteur prime sur la troupe et surtout où la rentabilité prime sur la créativité. Putain. C'est quoi? Tu crois que tu me condamnes à être une actrice ratée si je deviens prof? Et toi, t'es pas un acteur raté, peut-être, à me faire passer des auditions comme un gros con, là, assis sur ton petit banc? Hein? Putain, mais... Peut-être 2, peut-être 10, peut-être 100, peut-être 500 personnes vont pouvoir vivre leur passion grâce à mon aide. C'est ça, d'être une ratée? Mon corps me condamne à ça, mais je t'emmerde, putain! Je t'emmerde! Putain, j'aimerais tellement que ces petits élèves de ratés reviennent ici, putain, dans 10 ans, pour foutre en l'air tes appréhensions de gros cons, de droite en plus, et tes prétendus savoirs. Putain, te montrer que dans 10 ans, tu seras toujours là, à comparer la taille des bonnets, pendant que nous, bah on vivra vraiment le truc, tu vois.
D'abord, au départ, moi, l'atelier, c'était la rend vie, la rend vraie, que j'étais vraiment persuadée qu'on se verrait.
Ouais.
Et puis, j'ai vu le truc.
Ouais, mais ça a été une expérience quand même.
Oui.
Je trouve que ça a été une expérience particulièrement dans ce cadre-là.
Ouais.
Parce qu'on l'aurait pas vécu de la même manière, je pense, du tout, et que ça a fait aussi émerger plein de choses.
Peut-être.
D'être long.
Moins de pudeur aussi.
Ouais, mais carrément.
Ouais, ouais, ça a permis.
Je pense même dans nos façons respectives d'écrire, je pense que ça a complètement modifié quelque chose quand même.
C'est vrai, c'est possible ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Quelle heure il est? Moi, j'ai pas mes lunettes, je vois rien au fur et à mesure. Parce que si je mets mes lunettes, ça fait de la buée.
15h10.
Donc, on va pas. Qui est-ce qui lit son devoir final aujourd'hui en vrai? Alors, Chérine.
Ce que j'aime beaucoup avec ce cours, c'est qu'on arrive vraiment à partager nos textes. Et ça fait un peu The Voice, mais on a chacun notre univers où on écrit chacun différemment, sur des thèmes différents, chacun avec notre point de vue. Et c'est vraiment agréable, en fait, de pouvoir partager ça, de pouvoir partager aussi des textes qui nous touchent, des références, des sujets.
Personnellement, dès le début du semestre en janvier, du second semestre, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Parce que c'est le deuxième confinement, etc., c'était une période très difficile pour moi. Et juste le fait d'avoir une prof qui est aussi investie pour nous et qui soit aussi présente dans nos vies, ça fait vraiment du bien parce qu'on sent qu'on nous donne de l'attention, en fait. Et on veut lui donner en retour. Et je la considère un peu comme ma famille maintenant, puis c'est le même prénom que ma grand-mère et tout. Et je suis vraiment très attaché à elle parce que c'est une personne extraordinaire. Sa façon d'apprendre, etc., c'est. Comme elle nous a dit, c'est pas un cours, c'est un atelier. Et elle nous apprend pas des choses. Mais en tout cas, personnellement, pour moi, elle m'a vraiment appris en fait à me lâcher dans mon écriture et à me faire confiance et à écrire sur des choses que je ressens et qui sont importantes pour moi en fait. Et ça, c'est vraiment extrêmement bien. En plus, j'avais dans le jugement et juste le fait qu'elle s'est démenée pour qu'on puisse avoir comme une séance en présentiel, ça fait juste du bien. Puis même genre de se voir et tout, on a juste l'impression d'être un peu une grande famille et tout, qu'on se connaît depuis longtemps. Et vraiment, c'est extrêmement agréable. Et puis même, elle nous permet du coup de nous explorer d'une façon totalement nouvelle et totalement en sécurité. Et je sais que dans ces cours, etc., j'ai toujours peur de parler ou de mettre ma vidéo, etc., alors qu'avec elle, vraiment, on se sent comme à la maison, quoi. Et ça, c'est une de ses très grandes qualités, que c'est la générosité et son empathie, quoi.
Bah, c'est vrai que de pouvoir écrire et d'avoir un sujet à écrire toutes les semaines, enfin, je trouve que ça m'a permis d'améliorer mon écriture. Et je trouve que les sujets qu'elle donnait, ils étaient souvent très, très variés. Donc ça permettait vraiment de laisser libre cours à son imagination. Et puis même quand un thème était donné, c'était assez large pour qu'on puisse divaguer. Et donc c'était très intéressant.
Dès les premiers instants de cours, j'ai dit bon, bah, c'est là où je vais pouvoir entre guillemets, me défouler. Au niveau écrit, même au niveau de la... Des fois, quand on lit nos tests, de la prestation de la voix. Et vu que j'aime beaucoup écrire de base, du coup, et ben c'était parfait pour moi. C'était idyllique. Un cours comme ça, c'est respirer.
Je pense qu'on a été pas mal de surprise en surprise. Au début, Agnès, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper enthousiaste et qui, donc, dès le départ, nous a fait comprendre qu'elle voulait nous emmener dans un voyage, etc. Donc, c'était limite au début, j'ai trouvé que c'était un peu trop, quoi. Je me disais, oula, mais c'est un atelier, une réflexion de petite meuf de la fac un peu à la con en me disant, de toute façon, c'est un atelier, c'est quoi, c'est 3 ECTS sur le. En fait, au départ, je me suis dit ça. Et puis, en fait, elle a eu une façon de s'engager avec nous, mais aussi dans tout ce contexte, dans un truc. Elle nous a dit dès le départ qu'elle mourait d'envie de nous voir en vrai. Il y a eu un. Dans son cours à elle, c'était vraiment. Il y avait vraiment un truc d'échange. Et en plus, pour nous qui nous connaissions aussi mal, puisque depuis le début de l'année, on est en distanciel, donc pour les échanges, c'est quand même plutôt restreint. Il y a eu un truc d'écouter les textes des autres, d'écouter ce qu'ils pouvaient écrire sur eux, qui nous a permis de nous découvrir aussi autrement, et qui, je pense, a été vachement intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que ça a été... Oui, il y a eu beaucoup de cours en distanciel, mais il y avait un truc vivant quand même qui était là. Bon, on est quand même content de se retrouver en vrai là pour ces deux dernières séances. En tout cas, c'est un cours dans lequel on a, enfin, j'ai le sentiment qu'on a vraiment échangé en tout cas tous ensemble.
Moi, de la radio, j'en avais déjà fait et du coup, c'était vachement bien de pouvoir s'y retrouver, de retrouver cette ambiance et tout qui est quand même assez intimiste mais aussi très permissive. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir cette opportunité là et puis qu'elle nous la laisse comme ça en disant vous pouvez y aller, vous ne pouvez ne pas y aller. Et je trouvais ça super super intelligent, surtout que c'est un cours où on travaille des textes, donc la lecture des textes donne aussi une autre dimension au travail qui est juste super.
Du coup, moi, je me suis réconcilié avec le travail du son. Étant en cinéma, j'avoue que je déteste le travail du son. C'est vraiment, il y a trop de galères en fait. Et du coup, là, ouais, j'ai bien aimé l'exercice et je me suis dit que ça me plairait bien de partir un peu dans, pourquoi pas un jour dans cet exercice de radio, de podcast.
Ça s'est super bien passé, on nous a bien accueillis. On nous a mis dans les meilleures conditions pour pouvoir enregistrer, on nous a mis bien, on nous a bien expliqué comment ça se passait, qu'il fallait pas stresser, etc. Franchement, c'était super, c'était une super expérience.
Enfin, c'était nouveau pour toi
Non, j'ai déjà enregistré des textes par le passé, pas aussi professionnellement, mais j'ai fait des stages, étant plus jeune, je voulais être journaliste, donc j'ai fait des stages en radio, j'ai déjà enregistré... des jingles ou des j'ai déjà parlé dans des podcasts, etc. Donc je savais comment ça fonctionnait et j'étais pas trop stressé. Maintenant, faire de la fiction, c'était une première vraie expérience, on va dire. J'ai déjà fait de la fiction par moi-même, je suis animateur, donc j'ai réussi à faire un conte audio avec des enfants de 5 ans, donc j'étais très fier de moi, mais je l'ai fait juste avec le micro du téléphone, donc c'est bien différent que de le faire dans un vrai studio, dans une radio. Et non, franchement, c'était une super expérience. Moi, ça m'intéresse vraiment le montage audio. Là-dessus, je travaille beaucoup avec la musique quand je crée quelque chose. Du coup, rajouter des sons ou une respiration, peu importe, ça permet de grandir le texte et d'aller encore plus loin. Donc, c'est super important pour moi. Mettre plus encore le spectateur dans l'histoire et l'auditeur aussi.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Moi, je suis une dévoreuse de radio, de podcasts, d'ondes, et c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien dans ma vie quotidienne. Et c'est un format, en fait, je me suis rendu compte en parlant avec eux qu'ils écoutaient beaucoup de podcasts. Et je trouve que ça porte magnifiquement l'écriture, le podcast, parce que, et ils sont très libres face au micro, parce qu'il n'y a pas l'image, justement. Et plutôt qu'une restitution, on va dire, en feuille A4 ou en livret ou en, comme ça en texte, c'est quand même un objet incarné. On a contacté Vincent donc, de la radio Paris 8 qui nous a accueillis dans ce magnifique studio qui est une petite bulle à l'intérieur de l'université. Pour eux, ça a été une expérience de valorisation de leur texte. C'est pour moi, c'est vrai qu'écrire, c'est bien, mais médiatiser, faire en sorte qu'à un moment donné, ça passe à l'autre, c'est ça qui va faire qu'on se dit « j'ai écrit un texte ». C'est cette valorisation et en faire un petit objet montrable, voilà, restituable.
L'écriture de l'expérience intime a permis à ce groupe créatif de développer des liens. Leur complicité, la bienveillance qu'ils se témoignent les uns les autres est palpable dans la salle de cours. On en oublierait presque que la plupart de ces étudiants et étudiantes ne s'étaient jamais rencontrés physiquement. Leur projet radiophonique n'aurait peut-être pas vu le jour sans le contexte de la pandémie. Ils montrent comment l'université reste le lieu de la rencontre, de l'échange et du partage, et le terrain privilégié des expérimentations. Nous remercions le département théâtre pour sa collaboration, ainsi qu'Agnès Marietta, ses étudiants et ses étudiantes, pour nous avoir invités à cette première rencontre en présentiel. Cette émission a été réalisée par le service communication, avec le concours de l'association Radio Paris 8 et du département théâtre. Les enregistrements ont été réalisés au Studio 8 par Vincent Drouot et en Amphi 4 par Jules Gousseau et Alice Forge.